Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul Bénédicte Bolou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
L'épidémie de la variole du singe continue de progresser en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Depuis la détection du premier cas au début du mois de juillet à Tabou, d'autres cas ont été enregistrés aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. L'Organisation mondiale de la santé a réagi à cette recrudescence de la variole du singe en déclarant, le 14 août courant, une urgence de santé publique de portée internationale. Cette mesure vise à mobiliser les efforts mondiaux pour contenir la propagation du virus. Concernant les contaminations, aucune ne concerne la nouvelle souche plus mortelle découverte en République démocratique du Congo. Dans le magazine de santé de ce jour, on parlera des signes, des mesures de prévention et stratégie de riposte avec un spécialiste des zoonoses liées à la faune sauvage également, chargé de la surveillance de la variole du singe à l'Institut national de santé publique d'Abidjan-Trècheville. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Docteur Amani Yaoumé Raphaël, bonjour. Vous êtes médecin épidémiologiste avec vous ce jour. Il est question dans ce magazine de santé de la variole du singe, de la Mpox. Docteur, parlez-nous de l'origine de cette maladie.
La Mpox est une zoonose, c'est une maladie qui est intertransmissible entre les hommes et les animaux. C'est une maladie d'origine virale. Le virus a été découvert pour la première fois en 1958. C'est un virus qui s'est exporté puisqu'il a été découvert en dehors de l'Afrique déjà. Mais le premier cas humain documenté a été identifié en République démocratique du Congo en 1970. Depuis lors, ce virus a fait son chemin, a créé aussi d'autres épidémies chez les hommes, notamment aux États-Unis en 2003, où des rongeurs venus du Ghana ont contaminé d'autres rongeurs qu'on appelle les chiens des prairies, qui à leur tour ont contaminé une quarantaine de personnes, dont 14 personnes ont été hospitalisées. C'est une maladie qui a vraiment une portée internationale très importante. Alors que ce virus-là, initialement, c'est un virus qui a une distribution géographique assez simple en Afrique, parce que ce virus-là peut être divisé en deux types génétiques qu'on appelle des clades. Donc il y a le clade 1, le clade 2. Le clade 1 est en général cantonné en Afrique centrale, et puis le clade 2 en Afrique de l'Ouest. Et le seul pays où on trouve les deux clades, c'est le Cameroun. Cependant, il y a des mutations qui se passent à l'intérieur de chaque clade et c'est ces mutations-là qui sont parfois à l'origine d'une virulence plus importante, donc ça donne des cas beaucoup plus graves au fil des années. La variole du singe, la Mpox, la variole simienne ou encore Monkeypox sont autant d'appellations qui désignent la même maladie. Alors nous devons nous habituer au thème la Mpox puisque c'est le thème qui est reconnu sur le plan et qui est admis sur le plan international. Maladie émergente qui a été déclarée comme étant une urgence de santé publique de portée internationale ce 14 août par l'Organisation mondiale de la santé. Et un jour avant, c'était l'Africa CDC qui déclarait aussi cette maladie comme étant une urgence de santé publique au niveau africain. C'est une maladie émergente qui a été à l'origine d'épidémies, notamment la grosse épidémie de 2022-2023 qui a été caractérisée par une atteinte des zones où on n'avait jamais rencontré de cas où la transmission interhumaine a été très très importante. Et déjà cette année, c'est près de 2745 cas qui ont été confirmés et 456 décès ont été déjà enregistrés. Même si c'est une maladie qui touche le plus souvent l'Afrique, en particulier le Congo, mais c'est au moins 10 États africains qui ont signalé des cas, d'où l'importance de la déclaration de cette urgence.
On parle de la faune sauvage, mais dites-nous précisément où l'on trouve ce virus.
Ce virus, effectivement, on le retrouve dans la faune sauvage, même si on n'a pas encore identifié de façon formelle le réservoir, mais les rongeurs sont le plus souvent associés à ce virus-là. Donc, ce sont des rongeurs comme les rats de Gambie ou bien des rongeurs arboricoles tels que les écureuils. Donc, le singe est une victime parce que le singe a été contaminé et fait la maladie. Malheureusement ou heureusement, c'est cet animal-là qu'on a découvert pour la première fois ce virus. Donc, à partir de ces animaux-là, on peut se faire contaminer sans oublier qu'il y a la transmission interhumaine.
Docteur, comment se fait la transmission aussi lors d'une infection? Quels sont les symptômes qui apparaissent?
Il y a deux grands types de transmission. Il y a la transmission qui va se faire de l'animal à l'homme, qu'on appelle la transmission zoonotique, qui va se faire par contact direct ou indirecte, avec soit du sang ou les liquides biologiques, ou bien les liquides qui proviennent des lésions cutanées ou muqueuses d'animaux infectés. Donc, si on a le contact direct avec toutes ces substances-là, on peut se faire infecter, ou bien de façon indirecte. Tout ça, ça va survenir lors de la manipulation du gibier sauvage, lors de la consommation des denrées animales, surtout les denrées mal cuites, ou encore lors des morsures ou des griffures, c'est possible. La voie par contamination indirecte, lorsqu'on manipule tous les matériaux qui ont été souillés, ou bien des vêtements souillés par ces produits-là qui proviennent des animaux qui sont malades. La transmission secondaire, donc c'est la transmission interhumaine d'homme à homme, qui va se faire par contact étroit avec des lésions cutanées, avec des fluides corporels de façon directe, ou encore avec des sécrétions qui proviennent des voies respiratoires des sujets malades. Et cela peut se faire aussi de façon indirecte à travers tous les matériaux qui sont souillés. Mais n'oublions pas qu'il y a une transmission qui peut se faire lors des contacts étroits et prolongés par voie respiratoire. Lorsqu'on parle, lorsqu'on tousse, on va émettre des particules. Donc si nous avons des contacts qui sont vraiment intenses et prolongés avec un certain nombre de personnes, nous pourrons nous contaminer sur ces personnes sont malades. Et ça nous rappelle le mode de transmission principal de la COVID-19. La transmission peut également se faire de la mère à l'enfant pendant la grossesse à travers le placenta ou encore pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Le mode de transmission qui devient le plus en plus important, surtout avec les mutations du virus, c'est la transmission par voie sexuelle, surtout avec la clade 1B. Alors, lorsqu'on est infecté, les symptômes qui vont apparaître. Déjà, il faut savoir qu'il y a un temps qui va se passer, un temps qui va s'écouler entre le contact avec le virus et l'apparition des symptômes. C'est ce qu'on appelle le temps d'incubation qui va durer en 6 et 13 jours mais qui peut aller jusqu'à 21 jours. Après cette phase-là, on aura une phase invasive qui va apparaître. Donc, on aura la fièvre. Ce sont des signes qui sont pas très spécifiques, qu'on peut retrouver dans toutes les maladies infectieuses. C'est des douleurs musculaires, des douleurs dorsales. Mais on peut avoir aussi ce qu'on appelle des adénopathies. Ce sont des ganglions qui vont s'enfler à différentes parties du corps. Donc, après cette étape-là, on va arriver à une phase qu'on appelle la phase éruptive. Donc, c'est en ce moment-là que les éruptions vont apparaître. Donc, ce sont des boutons qui n'épargnent aucune partie du corps, même si ces boutons apparaissent le plus souvent sur le visage et les extrémités, c'est-à-dire les mains, les pieds. Sinon, toutes les parties du corps peuvent être atteintes, y compris les muqueuses. Donc, on peut avoir aussi des boutons dans la bouche, par exemple. Et ces boutons-là vont évoluer dans un certain ordre. C'est d'abord une petite élevure qui va se faire sur la peau, qui va aller contenir de l'eau et cette eau-là va s'infecter, donc ça va devenir du pus. Et ça peut s'ouvrir pour laisser couler ce pus-là, d'où la contamination de notre environnement ou bien une contamination proche de nous. La dernière étape, c'est l'apparition de croûtes. Nous allons vers la cicatrisation. Mais attention, le patient reste contagieux jusqu'à ce que les croûtes tombent. Lorsque nous sommes malades, on peut évoluer de façon spontanée vers la guérison. C'est possible en 2 à 4 semaines. Mais attention aux complications.
Justement, relativement aux complications, comment elles se présentent?
Cette maladie peut être source de complications importantes, notamment des infections secondaires. Ça peut être des infections pulmonaires, des infections de tout le sang qu'on appelle les septicémies. Il peut avoir également des infections de l'œil qui peuvent conduire jusqu'à la cécité. Et n'oublions pas qu'il peut avoir des cicatrices importantes qui peuvent gêner un certain nombre de personnes. Actuellement, en Côte d'Ivoire, pour ce qu'on constate, c'est que c'est la tranche d'âge de plus de 15 ans qui est la plus touchée. Donc, il y a 75% des cas. Mais n'empêche qu'il y a quand même des cas qui ont un âge qui est compris entre 5 et 14 ans. Il faut dire que de façon classique, pour ce qui a été remarqué à l'échelle africaine, 60% des cas, en général, sont des enfants.
Docteur, qu'est-ce qui peut faire que la variole du singe s'aggrave après une infection aussi? Comment se fait la confirmation par les professionnels de santé?
D'abord l'âge. Sur les enfants surtout pour les enfants qui sont atteints de malnutrition, on peut avoir des formes extrêmement graves. Les déficits immunitaires qu'on connaît, si vous avez un système immunitaire de défense qui est affaibli, on peut avoir la forme grave. Comme je l'ai dit, il y a deux variants, le variant centrafricain et le variant ouest-africain. Le variant centrafricain est beaucoup plus grave lorsque vous êtes infecté par ce virus-là. Comment confirmer cette maladie? C'est il faut juste qu'on fasse un prélèvement, notamment un prélèvement de peau qu'on va cheminer au laboratoire pour des analyses biologiques et le laboratoire pourra nous donner le résultat.
Alors, quel est le traitement qui est préconisé, celui qui est recommandé?
Comme la plupart des maladies virales, le traitement, il est d'abord symptomatique. Donc, il s'agira de soulager les symptômes du malade, de prévenir et de gérer les complications et les séquelles. On n'oublie pas d'assurer un bon état nutritionnel tout en apportant un soutien psychologique aux différents patients et à leurs familles. Il existe des traitements antiviraux qui peuvent être utilisés, notamment dans certaines formes graves.
Docteur Amani, dites-nous comment aujourd'hui éviter cette maladie?
On peut l'éviter notamment si on regarde un peu les voies et les modes de transmission. Il s'agit d'abord d'éviter les contacts contact avec les animaux qui sont susceptibles de porter ce virus-là, surtout les animaux malades ou les animaux qui sont trouvés morts. Et ceci est valable aussi bien pour la M-Pox que d'autres maladies aussi. Si on a contact avec les animaux malades ou les animaux morts, ou bien des matériaux, des vêtements qui ont été souillés par des animaux malades ou encore des humains aussi, il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Donc le lavage des mains est très très important. La consommation de denrées animales, il faut bien les cuire et aussi pour tout ce qu'on doit consommer, il faut vraiment appliquer les mesures d'hygiène strictes. Éviter de partager les vêtements, les serviettes, la lingerie, tout ça, c'est vraiment important. Et si nous sommes malades, il faut nous-mêmes nous isoler ou bien isoler les personnes qui sont malades avant leur prise en charge. Et malheureusement, s'il survient des cas de décès, il faudrait éviter de manipuler le corps des personnes qui sont décédées. Si vous avez des boutons qui apparaissent, la meilleure attitude serait de se rendre le plus rapidement dans un établissement hospitalier, de sorte à ce qu'on puisse vous examiner et voir s'il s'agit d'un cas ou non suspect de M-Pox. Et il faut éviter aussi l'automédication pour ne pas prendre des médicaments soi-même et se rendre dans l'établissement sanitaire le plus proche. Il s'agira aussi de former les praticiens à reconnaître les différents cas, aussi à la prise en charge. C'est aussi de renforcer le contrôle sanitaire, surtout le contrôle sanitaire au niveau des points d'entrée aussi, parce que c'est une maladie qui sait voyager. Donc le contrôle sanitaire au port d'entrée, aussi bien pour les humains aussi que pour les animaux, ça serait assez important. Alors l'une des dernières stratégies qu'on peut appliquer, c'est vraiment la vaccination des personnes à risque aussi pour limiter la transmission de la maladie dans certains cas. Mais pour le moment, nous sommes au stade, j'allais dire, de plaidoyer, de sorte à ce que le vaccin puisse être disponible.
Comment se faire tester pour la variole du singe?
Alors pour se faire tester, actuellement ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, c'est d'abord d'identifier toutes les personnes qui présentent des symptômes, ce qu'on appelle des cas. Il y a des définitions de cas qui sont élaborées, notamment pour la communauté ou lorsqu'il y a des éruptions cutanées qui apparaissent de façon brutale. Et lorsque vous avez ces éruptions cutanées, on vous demandera de vous rendre dans l'établissement sanitaire le plus proche pour que l'agent de santé puisse vous examiner et comparer ce que vous avez à la définition de cas suspect. Lorsque les symptômes que vous présentez sont compatibles avec notre définition de cas, en ce moment, on pourra vous réaliser un prélèvement. Il s'agit d'un prélèvement de peau ou d'un prélèvement de pus. Donc, ce sont des lésions, surtout des lésions cutanées là, que l'on va prélever. Et cet échantillon-là sera acheminé au laboratoire où un test PCR va être réalisé. Donc, c'est à l'issue de ce test PCR là, qu'on peut vous déclarer positif ou non à cette maladie-là. De manière générale, les maladies infectieuses émergentes ont pour origine la faune sauvage, puisque la faune sauvage est le réservoir d'un grand nombre de pathogènes, donc on ne les connaît pas tous encore. Et c'est quand même assez difficile de mettre la main sur tous ces pathogènes pour les comprendre. D'abord, ce n'est pas le même virus. C'est vrai qu'il peut avoir quelques modes de transmission, surtout lorsqu'on manipule les corps et autres qui peuvent être pareils, mais ce n'est pas tout la même chose, surtout que Ebola est une maladie, est une fièvre hémorragique. Pour la M-Pox, c'est beaucoup plus différent que ça. Donc, peut-être que la similitude vient du fait que ces virus, ça vient de la faune sauvage, mais en ce qui concerne les modes de transmission, il peut avoir quelques similitudes, mais la manifestation clinique et autres, c'est assez différent. Avec le nombre de cas qu'on a actuellement, nous sommes dans une situation sanitaire particulière. Selon la stratégie de surveillance de la maladie, donc on appelle la surveillance intégrée de la maladie de la riposte, la détection d'un cas est une situation de crise. D'un cas confirmé déjà est une situation de crise sanitaire. Et là, nous sommes dans une situation de crise sanitaire, c'est vrai en Côte d'Ivoire, mais au niveau mondial. Et c'est bien pour cela que cette maladie-là a été déclarée comme étant une urgence de santé publique de portée internationale.
Dans notre pays, dites-nous, quelle est la situation?
Actuellement, en Côte d'Ivoire, nous avons détecté des cas confirmés dans 9 districts sanitaires du pays. Les cas ont été détectés aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Malheureusement, parmi ces cas confirmés, nous déplorons un décès. C'est vrai que traditionnellement, cette maladie était liée aux zones rurales, mais ici, on voit bien qu'en milieu urbain, des cas peuvent survenir. Et ces cas-là, il y a vraiment tout le monde à l'intérieur. On a aussi bien des élèves, des agriculteurs, des fonctionnaires, partenaires également qui sont atteints. Donc, nous sommes tous concernés par cette maladie. Du coup, il faudrait prendre les mesures qui sont importantes.
Dans ce cas, que faire lorsque nous sommes atteints de cette maladie ou que nous sommes face à une personne déclarée positive à la Mpox?
Alors, une activité qui est importante, qui permet de réduire la transmission, c'est vraiment d'identifier les personnes qui ont été en contact avec un cas confirmé. Alors, si vous avez été en contact avec un cas confirmé ou un cas suspect, normalement, on doit faire l'objet d'un suivi. Et ce suivi-là, il est très important. C'est ce cas confirmé. Il y a à peu près 145 personnes qui ont été recensées, dont 145 sujets contacts qui ont été recensés et qui sont suivis. Parmi eux, il y a 31 agents de santé. Donc, vous voyez que les agents de santé sont aussi en première ligne, d'où l'importance aussi de former tous les agents de santé. Et il y a quand même 59 personnes qui ont terminé le suivi, parmi lesquelles on n'a pas détecté de cas confirmé. Et ça, c'est déjà assez bien. Le suivi continue pour ces différentes personnes-là. Il y a des mesures qui ont été déjà prises en Côte d'Ivoire, notamment la prise en charge des personnes atteintes, qui se fait aussi bien en milieu hospitalier qu'en milieu communautaire, avec l'appui des districts sanitaires. Les capacités de surveillance ont été renforcées et on communique vraiment sur la maladie comme ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous communiquons avec la communauté de sorte à ce que les personnes puissent prendre les mesures qu'il faut afin d'éviter de se contaminer. Il y a plusieurs vaccins qui ont été mis au point. Il faut dire qu'il y a deux qui peuvent être administrés aux personnes à risque. Donc, ces vaccins-là sont administrés aux personnes qui ont été vraiment en contact avec des cas confirmés ou aux agents de santé aussi, qui sont des personnes très à risque de développer la maladie, surtout pour les personnes qui sont dans les centres de traitement et les centres de prise en charge des malades de variole du singe. Cependant, jusqu'à actuellement, il faut dire que le vaccin n'est pas disponible pour l'Afrique, mais des efforts sont en train d'être déployés puisque dans ce qui accompagnait la déclaration, surtout la déclaration de l'Africa CDC, c'était aussi que ces mécanismes permettaient d'avoir des vaccins. Donc je pense qu'il est déjà question de mobiliser près de 200 000 doses de vaccins et il va falloir atteindre 10 millions de doses d'ici 2025. C'est une stratégie qui est en train d'être développée au niveau continental de sorte à ce que le vaccin soit disponible ici. Il y a un processus pour utiliser les vaccins chez les humains et ce processus est pareil que la mise sur le marché des médicaments. Donc, il y aura plusieurs étapes qui vont se faire. Il y a l'étape de synthétisation d'abord, dont le vaccin va être synthétisé. Ensuite, il va être administré à des modèles animaux pour évaluer un peu la toxicité et autres. Ensuite, il faut passer chez un petit groupe de personnes chez qui on va administrer ce vaccin-là et voir l'efficacité, les différents effets. C'est après avoir validé toutes ces étapes-là que ce vaccin va être mis sur le marché et être utilisé à grande échelle chez les personnes. Alors, en ce qui concerne le vaccin de la Mpox, c'est un vaccin qui est déjà utilisé dans certains endroits du monde. Mais les coûts de production, parce que ce vaccin coûte excessivement cher, les conditions d'utilisation font que nous ne pouvons pas les avoir actuellement, surtout avec le coût. Pour nous, Africains, si nous avons le vaccin, nous avons l'avantage que ce vaccin a été déjà utilisé ailleurs et qu'il y a eu normalement la surveillance, la pharmacovigilance, donc ce sera beaucoup plus facile pour nous. C'est l'occasion aussi pour nous de rappeler aux populations et de sensibiliser les populations sur l'utilisation probable du vaccin, parce que des efforts sont en train d'être déployés pour rendre disponible ce vaccin dans les pays d'Afrique, surtout les pays qui sont déjà touchés. Donc, il serait intéressant déjà de commencer à sensibiliser les populations de sorte à obtenir leur adhésion lorsque ce vaccin sera disponible. Et cela pourra faciliter la riposte contre cette maladie-là.
Merci infiniment, Dr Amani.
Merci.
Radio de la paix.
Même si la situation reste sous contrôle pour le moment selon les autorités sanitaires, les experts, eux, appellent à la vigilance et à la coopération de la population face à cette maladie. Le gouvernement ivoirien a interdit la détention des animaux sauvages vivant dans le pays en vue de stopper la propagation du virus de la variole du singe dont des cas confirmés et décès ont été enregistrés. L'épidémie de Mpox classée par l'Organisation mondiale de la santé comme urgence de santé publique internationale gagne du terrain dans notre pays. La prise en charge, la prévention, la vaccination en gros de la stratégie mise en place par nos autorités, il en était question aujourd'hui avec le docteur Amani Yaomé Raphaël, médecin épidémiologiste, spécialiste des zoonoses liées à la faune sauvage, par ailleurs chargé de la surveillance de la variole du singe à l'Institut national de santé publique. Fin de Santé pour tous. Merci et à bientôt.